Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Belinda Bosuma.
L'Église catholique a un nouveau pape. Il s'agit de Robert Francis Prévost qui devient Léon XIV. Le 267e pape de l'Église catholique a été choisi par les cardinaux réunis au Vatican depuis le mercredi. Il prend ainsi la succession du pape François, mort le 21 avril dernier. Au moins 2000 agents et cadres, dont 1200 personnes vivant avec handicap, intègrent l'administration publique congolaise. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a signé l'arrêté officialisant leur mise sous statut hier à Kinshasa, un acte qui réjouit la ministre en charge des personnes vivant avec handicap. Et puis, le mandat de Jules Alinguete à l'IGF a eu un impact initial positif en matière de contrôle des finances publiques et de lutte contre la corruption, mais des limites importantes ont atténué son efficacité. C'est ce que pense le président du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL, Valérie Mandianga, est l'invité de ce journal.
La pace sia con tutti voi.
Que la paix soit avec vous tous.
Fratelli, sorelle carissimi.
Chers frères et sœurs.
Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
C'est le premier salut du Christ ressuscité. Le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu.
Anch'io vorrei che questo saluto.
Moi aussi, j'aimerais que ce salut de paix puisse entrer dans vos cœurs, puisse rentrer dans vos familles. Je m'adresse à toutes les personnes, où qu'elles soient. Je m'adresse à tous les peuples. Je m'adresse à la terre entière. Que la paix soit avec vous.
Voilà, ce sont là les tout premiers mots du nouveau pape. Le cardinal américain Robert Francis Prévost est donc élu pape sous le nom de Léon XIV. Avant son élection, il occupait la fonction de préfet du dicastère pour les évêques. Le 267e pape de l'Église catholique a été choisi par les cardinaux réunis au Vatican depuis le mercredi 7 mai. Et c'est lui qui prend la succession du pape François, mort le 21 avril dernier. Comme vous venez de les suivre, ses premiers mots prononcés avant sa bénédiction Urbi Orbi sont centrés sur la paix qui doit régner à travers le monde. Mais qui est le nouveau souverain pontife Blaise Makasinandes?
Le cardinal Robert Francis Prévost, préfet de l'influente Congrégation pour les évêques, est un prélat né à Chicago, aux États-Unis, qui a passé de nombreuses années comme missionnaire au Pérou avant d'être élu à la tête des Augustins pour deux mandats consécutifs. Il est titulaire d'une licence en mathématiques, d'une maîtrise en théologie de l'Union théologique catholique de Chicago, ainsi que d'une licence et d'un doctorat en droit canonique du Collège pontifical Saint-Thomas d'Aquin à Rome. Il est ordonné prêtre en 1982. Il a dirigé le séminaire augustinien de Trujillo, exercé des fonctions de curé, des directeurs de la formation, des professeurs de séminaire et de vicaire judiciaire. Il a été élevé au rang d'évêque de Chiclayo en 2015. Le pape François a nommé Monseigneur Prévost préfet du dicastère pour les évêques en janvier 2023, le chargeant ainsi de la sélection des évêques. Plus tard dans l'année, le 30 décembre 2023, il a élevé au rang de cardinal. En les choisissant, les cardinaux confirment le choix d'une église ouverte, multiculturelle et missionnaire. Ce 267e souverain pontife prend la succession du pape François, qui a occupé le poste entre 2013 et 2025, jusqu'à sa mort le 21 avril dernier.
En réaction à l'élection du nouveau pape, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, exprime son immense joie d'apprendre la nouvelle de l'élection du cardinal Robert Prévost comme successeur du pape François. Le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, salue les premiers mots du nouveau pape Léon XIV qui souhaite la paix du Christ dans le monde. L'Église du Congo espère voir le pape Léon XIV s'investir pour la paix en RDC, souligne Monseigneur Donatien Cholet. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
C'est une grande joie pour l'Église universelle de recevoir la nouvelle de l'élection du cardinal Robert Prévost comme successeur du pape François. Une joie de savoir qu'il a choisi comme nom le pape Léon XIV, qui fait penser au grand pape Léon XIII, qui a conduit l'Église au début de la modernité, mais surtout qui a laissé à l'Église le grand héritage de l'enseignement social de l'Église, et une joie aussi d'entendre les premiers propos du pape qui a transpiré la nécessité de la paix dans le monde. Et pour nous les Congolais, ce message doit nous réconforter. Ce que nous attendons de lui, c'est de poursuivre l'élan du pape François, qu'il ait une attention particulière pour l'édification d'une paix durable en République démocratique du Congo.
Dans l'actualité aussi, je vous l'ai dit dans les titres, au moins 2000 agents et cadres, dont 1200 personnes vivant avec handicap, recrutés sur titre au ministère des personnes vivant avec handicap, intègrent l'administration publique congolaise. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a signé jeudi l'arrêté officialisant leur mise sous statut lors d'une cérémonie organisée sur le parvis de son ministère à Kinshasa. Un acte qui réjouit la ministre en charge des personnes vivant avec handicap, témoin de l'événement, Blaise Ndongala Mayanda. Reportage.
Ces cris de joie, d'allégresse, chansons et pas de danse sont enregistrés sur les parvis du ministère de la fonction publique lors de la signature de cet arrêté historique. Dans son mot de circonstance, la ministre en charge des personnes vivant avec handicap remercie toutes les autorités du pays ayant contribué à la réussite de ces processus. Pour elle, cet arrêté met fin aux inégalités et aux injustices ayant subi les personnes vivant avec handicap au sein de l'administration publique.
Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, au nom de toutes les personnes avec handicap, je vous dis merci pour toutes ces concessions parce que nous pouvons nous dire aujourd'hui que la voie est ouverte aux personnes avec handicap au sein de notre fonction publique.
De son côté, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique invite toutes les personnes ayant intégré l'administration publique à travailler avec engagement afin de prouver leurs compétences et leurs capacités à contribuer à la bonne marche du pays.
L'État n'est pas là pour distribuer des petites enveloppes salariales. C'est d'abord pour travailler, faire rayonner les services publics.
Cette nouvelle administration s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui prône l'inclusion sociale.
Parlons de la problématique de la gratuité de la maternité en RDC. Le ministre de la Santé publique était convoqué à l'Assemblée nationale au cours de la plénière d'hier consacrée au contrôle parlementaire. Il répondait à la question avec débat adressé par le député Freddy Bonzeke, l'élu de Maïndombe, ainsi que d'autres députés qui sont intervenus demandaient des explications sur la mise en œuvre de ce programme du gouvernement et une évaluation claire depuis son lancement en septembre 2023. Pour le ministre de la Santé, ce programme a un impact social dans les provinces couvertes. On écoute le ministre Samuel Roger Kamba dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Je voudrais rappeler que, à ce sujet, une maman décède toutes les 4 heures en mettant au monde. Et nous avons 22 bébés qui meurent toutes les 1000 naissances. Donc avec ça, on ne pouvait pas ne pas prendre ce sujet à bras-le-corps d'emblée dans le cadre de la couverture santé universelle. Nous avons décidé de commencer par la ville-province de Kinshasa. Nous avons à ce jour étendu sur le fonds propre de l'État, le Congo central, Kinshasa et le Kasaï oriental et sur les fonds de la Banque mondiale, nous avons étendu dans 11 provinces, ce qui nous fait 14 provinces sur 26. Pour les 14 provinces sur 26, nous avons couvert 257 zones de santé sur les 519 et nous avons couvert 4622 établissements de soins de santé. Nous faisons la prise en charge de la maternité et des nouveau-nés en payant au niveau de ce centre-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les barrières qui font que la mortalité de la mère et de l'enfant augmente, c'est le fait que la maman hésite à venir au centre de santé parce qu'elle n'a pas les moyens de payer. Pour les trois provinces sous gouvernement, nous avons pris en charge 426 000 mamans. Je crois donc qu'avec ces chiffres, il est difficile de dire avant égale après. Aujourd'hui, une maman qui accouche à Ndjili peut avoir son bébé transféré en Galiéma, ce qui ne pouvait pas se faire avant.
Et sachez que les militaires et policiers bénéficient désormais du régime de sécurité sociale. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a officiellement lancé hier à Kinshasa la cérémonie d'intégration des militaires et policiers au régime de sécurité sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP. Cette réforme garantit une couverture sociale complète pour les forces de l'ordre, à savoir retraite digne, protection contre les risques professionnels et actions sociales. Autre nouvelle, le gouvernement souhaite voir les agences du système des Nations Unies poursuivre leurs activités en RDC en dépit de la situation sécuritaire qui prévaut au pays. Cette assurance vient de la première ministre. Judith Suminoir s'est ainsi exprimée hier jeudi lors des assises qui ont réuni dans les installations de la MONUSCO à Itex Africa à Kinshasa les chefs des agences et les présidents des équipes dans les provinces. Objectif, passer en revue les activités de l'année passée et planifier les actions futures. Étienne Lissoumbou a pris part à ces assises. Reportage.
Au cours de cette session de travail, il est question d'échanger sur la situation humanitaire qui devient inquiétante en RDC. Judith Suminoir, première ministre et chef du gouvernement, explique comment la collaboration entre la RDC et les Nations Unies devra se poursuivre dans ces contextes de guerre.
Comment cette intervention du système des Nations Unies va se faire? En même temps, comme on le sait, il y a une crise au niveau des ressources financières, vu qu'il y a un certain nombre de bailleurs qui ont indiqué la réduction de leur intervention au niveau des différents agents du système des Nations Unies. Et dans ce contexte de réduction des ressources, voir comment on peut faire mieux et de manière plus efficace.
Bruno Lemarquis, coordonnateur du système des Nations Unies en RDC et chef ad intérim de la MONUSCO, parle de la consolidation du partenariat entre la RDC et l'ONU.
Comme la première ministre l'a dit, on est dans une conjoncture un peu particulière avec ce que moi j'appelle une polycrise. Il y a plusieurs niveaux de crise au Congo auxquels on doit faire face, alors que le Congo en même temps doit continuer à avancer avec son agenda de développement. Dans cette polycrise, il y a bien sûr la crise à l'Est.
Signalons qu'à l'issue de cette retraite de travail, quelques engagements ont été pris pour les 12 mois à venir.
La journée mondiale de la Croix-Rouge, c'était hier, le 8 mai. En RDC, elle est célébrée sous le thème « Du côté de l'humanité ». À Kinshasa, la cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple en présence des secouristes venus des quatre coins de la capitale. Et d'ailleurs, c'est le ministre de la Santé publique qui a présidé la cérémonie en présence de sa collègue des Affaires sociales. Reportage de Gloria Lutula.
Dans son monde de circonstances, le ministre de la Santé publique a salué le travail abattu par la Croix-Rouge sur toute l'étendue du pays, un travail qu'il juge important. Docteur Samuel Roger Kamba.
De mon ministère de la Santé où j'observe les choses, je vois tous les jours les travaux de la Croix-Rouge, je vois tous les jours du Croissant-Rouge. Vous êtes là où les autres ne vont pas. Moi, j'ai dirigé la lutte contre le coronavirus et j'ai vu les travaux de la Croix-Rouge. Dans le cadre de la gratuité de la maternité, je vois les travaux de la Croix-Rouge.
À son tour, le président de la Croix-Rouge RDC met notamment l'accent sur le programme de formation des secouristes dans les entreprises, programme lancé et soutenu par la première ministre. Il profite à l'occasion pour inviter la jeunesse à la prise de conscience et à se former au secourisme. Grégoire Matesso.
La première ministre, lorsqu'elle nous a reçus, elle nous a recommandé de faire les formations des secourisme dans des entreprises, dans des ministères. Le programme est déjà lancé.
Pour sa part, le président de la Croix-Rouge de la ville province de Kinshasa remercie les volontaires de la Croix-Rouge pour leur participation massive et leur implication dans la réussite de cette cérémonie marquant la journée internationale de leur organisation.
Toujours dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge, en Ituri, 70 000 personnes et 50 blessés de guerre ont été pris en charge gratuitement en 2024 par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Ces chiffres ont été rendus publics hier à Bunia à l'occasion de la célébration du 8 mai. Le CICR a organisé une journée porte ouverte dans ses installations. Méric Alagbe, chef de la sous-délégation du CICR à Bunia, explique l'intervention de son organisation dans le domaine de la santé. Il est au micro de Sadiki Aboubakar.
En 2024, donc l'année dernière, 70 000 personnes ont bénéficié de consultations gratuites dans les centres de santé qui sont appuyés par le CCR. Quand il s'agit des blessés par arme, 4 au total, 50 personnes qui ont bénéficié d'un appui direct du CCR. Pour les blessés de guerre, nous en avons de toutes les catégories. Il y en a dans les forces armées de l'État, mais il y en a aussi qui viennent des groupes armés. Le CCR ne fait pas de distinction. Nous apportons une assistance à tout le monde et nous appuyons aussi des structures de santé dans le territoire de Djougou essentiellement, mais aussi dans le sud Irumu pour assister ces personnes en fait. Donc voilà, quand ils sont blessés, ils peuvent passer directement dans ces structures pour recevoir des soins qui sont apportés par le CICR, mais à travers ces structures-là, dont nous fournissons des médicaments, mais aussi du matériel de prise en charge des blessés par arme.
Le CICR dit faire face également aux conséquences de la réduction drastique des fonds humanitaires à travers le monde. Créé en 1863, le CICR a pour seul objectif d'assurer la protection des victimes des conflits armés et d'autres situations de violence et de leur porter assistance. Parlons justice en plus bref. Avec la reprise hier devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe au camp Lufungula du procès du meurtre de Fiston Kabea, ancien policier de roulage. À cette audience, la cour a examiné le rapport médical des médecins légistes qui étaient chargés de faire l'autopsie. Il ressort de ce rapport que Kabea est mort à la suite d'un traumatisme crânien causé par des coups qu'il aurait reçus de la part des policiers de l'équipe d'escorte de la première ministre. C'était le 25 mars lors d'une altercation sur l'avenue Colonel Mondjiba en face du supermarché GG Mart à Kinshasa. Rappelons qu'à l'audience précédente du 14 avril, la cour avait confronté les prévenus au ministère public sur l'infraction présumée des coups et blessures volontaires contre la victime. Elle renvoie l'audience à lundi prochain pour plaidoirie et réquisitoire.
Actualité internationale.
Nous sommes au Sénégal. 5 anciens ministres seront bientôt jugés par la Haute Cour de justice. La majorité des députés et de l'Assemblée nationale ont voté jeudi une résolution de mise en accusation allant dans ce sens. Dès lors, va s'ouvrir sous peu une série de procès devant cette juridiction spéciale, seule habilitée à connaître des faits reprochés à d'anciens ministres ou chefs d'État. Les accusations contre ces ministres portent principalement sur des soupçons de détournement des fonds de lutte contre la pandémie de COVID-19, tous à l'exception de l'ancien ministre garde des Sceaux, accusé lui de corruption.
L'invité.
Le mandat de Jules Alinguete à l'IGF a eu un impact initial positif en matière de contrôle des finances publiques et de lutte contre la corruption. Cependant, des limites importantes, notamment en termes d'indépendance, de ciblage des enquêtes, de conflits d'intérêts et de suivi judiciaire ont atténué son efficacité. C'est le point de vue du président du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL, Valérie Madianga, est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec Jocelyne Moussaoupone. Valérie Mandianga, bonjour.
Bonjour madame.
Quel regard portez-vous sur l'impact réel des actions de Jules Alinguete en matière de lutte contre la corruption et de redressement des finances publiques durant son mandat?
Dès son arrivée à la tête de l'IGF, ce dernier a impulsé le contrôle des finances publiques, notamment avec la patrouille financière. Nous avons aussi assisté à plusieurs missions de contrôle, notamment des entreprises. Et son travail a mis à jour les mauvaises pratiques dans la gestion des finances publiques, mais aussi des services publics. Et en plus, il a aussi donné le goût du contrôle des finances publiques. Certains ont pu comprendre qu'effectivement, il faut travailler pour canaliser plus les recettes. Maintenant, si vous observez, pendant tout ce temps, les recettes publiques ont pu doubler parce qu'il y a eu cette impulsion-là du contrôle.
Quelles ont été, selon vous, les principales limites ou critiques de sa gestion à la tête de l'IGF, notamment en matière de transparence et d'indépendance institutionnelle?
Premièrement, ces enquêtes ou ces missions se sont montrées au moins ciblées dans le but de fragiliser quelques personnalités, mais ça n'a pas été vraiment des missions qui pouvaient rapidement généraliser les contrôles des finances publiques. Cela se justifie en partie à son attachement à l'institution président de la République, ça c'est un. Le deuxième élément aussi, c'est le faible effectif au niveau de l'inspection générale des finances, parce que vous savez que le travail est basse, mais il y a eu peu de personnel qui devrait l'accompagner dans cette mission-là. Le troisième élément, c'est que l'IGF est allé travailler au-delà de ses missions. Vous avez notamment les contrôles effectués au niveau de la GECAMINE, où au lieu que l'IGF puisse effectuer des missions de contrôle, l'IGF s'est transformé en une mission de consultance pour aller auditer la gestion financière de la GECAMINE. Et là, l'IGF est allé même renforcer les capacités de ces derniers. Et il y a eu le double paiement, ça veut dire que des missions ont été en amont payées par l'État, mais l'IGF a été encore payé par l'entreprise qu'elle était censée contrôler. Donc, il y a eu vice de procédure. Un autre élément, l'IGF nous a aidé à revisiter les contrats chinois Mais lors de cette mission-là, l'IGF a perçu ce que nous appelons une rétrocommission, et ce qui a fragilisé également son image vis-à-vis de l'opinion publique.
Que pensez-vous de l'attitude des instances judiciaires par rapport à tous les cas dénoncés par l'IGF?
Oui, en principe, les rapports de l'IGF devraient être capitalisés par différents services publics, notamment la justice. Il y a eu peu d'actions judiciaires. La plus récente, c'était celle relative au procès Boukang-Alonso. Mais nous pensions que la justice devrait aller au-delà des faits relevés par l'inspection générale des finances. Jusque-là, nous assistons à un procès pratiquement qui est bâclé. Et d'autres éléments les plus importants, vous savez que l'IGF a constaté la malversation financière au niveau de toutes les entreprises, presque la majorité. Mais la justice ne s'est pas saisie de toutes les conclusions de l'IGF pour réprimer le malfaiteur, mais aussi arriver à récupérer les fonds volés. Ça, on n'en a pas vu. Nous avons tout simplement vu des rapports, mais les perceptions indues relevées par l'IGF n'ont pas été retracées, mais aussi les biens mal acquis obtenus par tous ces gestionnaires n'ont pas été confisqués par l'État. Donc, on a pratiquement assisté à un statu quo dans ce cadre-là.
Et si on veut voir les choses du bon côté, est-ce que vous pensez que les acquis de l'ère Alinguette peuvent être durablement consolidés par son successeur? Et quel mécanisme serait nécessaire pour cela?
Il faut faire un état des lieux de toutes les missions qui ont été effectuées et élaborer sous forme d'une note toutes les constatations, le présenter au gouvernement pour que ces derniers puissent le mettre en application. Il faudrait que la nouvelle équipe supprime la patrouille financière. Elle est irrégulière, c'est une co-gestion, elle ne peut en aucun cas aider à ce que nous puissions améliorer la gestion des finances. Il faudrait que l'IGF puisse effectuer des missions concomitantes tout en se mettant à l'écart de la gestion quotidienne de toutes les personnes qu'elle est censée contrôler. Il faudrait que l'IGF soit renforcé en personnel pour étendre les contrôle au niveau de tous les services publics. Il faut qu'il y ait une très bonne collaboration entre l'Inspection générale des finances, mais aussi la Cour des comptes, pour que les deux institutions puissent œuvrer dans la même direction et améliorer la gestion des finances publiques, que ce soit au niveau du circuit de la dépense, mais aussi au niveau du circuit de la recherche publique. Il faudrait que les deux institutions puissent booster les contrôles au niveau même des services publics, et ça nous permettrait vraiment de coordonner les actions, et ça va donner une nouvelle image des actions de contrôle dans notre pays.
Valérie Mandianga, merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.